Alors passons maintenant un petit peu à l'explication du fonctionnement, en tout cas d'une des crypto-monnaies qui est le Bitcoin. Il y a un mot qui, j'ai l'impression, est utilisé un peu à tort et à travers, qu'on ne comprend pas trop quand on ne s'y intéresse pas de base, c'est blockchain. Je vais traduire pour ceux qui ne maîtrisent pas la langue de Shakespeare, c'est la chaîne de blocs, tout simplement. Alors je vais donner une petite définition, puis après ça vous permettra voilà, de détailler un peu plus sur vraiment les fonctionnements. Mais en gros, la technologie blockchain, en l'occurrence dans le cas du Bitcoin, c'est un registre comptable horodaté, censé être infalsifiable, transparent et qui évite les doubles dépenses sans du coup le côté de la centralisation des dépenses via un tiers de confiance qui va tout un peu gérer entre une personne A et B. Ça, est-ce que c'est vraiment ça le socle, la base de cette monnaie ou c'est beaucoup plus complexe que ça?
C'est plus complexe que ça. C'est toujours le risque avec un concept aussi compliqué que Bitcoin, c'est de faire l'opération artichaut. Vous commencez par enlever des feuilles, après il y en a partout dans l'assiette et ça ne ressemble plus à rien. Donc, comment fonctionne Bitcoin? Imaginez qu'on est en train de jouer à je ne sais quoi, au poker, au Monopoly, on est une demi-douzaine autour de la table. On a plusieurs façons de jouer. Soit quelqu'un centralise nos opérations, soit on joue entre nous. Et on joue entre nous sans que les banques le sachent parce qu'on joue des haricots. Simplement, qu'est-ce qui se passe? Soit les mouvements sont enregistrés par l'un d'entre nous, des haricots, si c'est des haricots virtuels, si c'est des haricots physiques, bah, chacun voit bien que j'en ai 5, que vous en avez 25, que vous êtes en train de gagner la partie, etc. Si c'est des haricots virtuels, comment est-ce qu'on va faire? Soit quelqu'un tient un petit carnet et dire, bah, Jacques en a perdu 5, ils sont pour Céline, mais tient le truc, mais dans la pratique, c'est lui qui gouverne le jeu. Soit chacun tient le même petit carnet. C'est-à-dire que moi, je vais dire, j'en ai perdu 5, je les ai donnés à Célim. Célim va dire, j'en reçois 5 de Jacques, etc. Il y a un moment où il faut vérifier que tous les petits carnets se valent. Bon, vous savez très bien qu'à la fin de la partie, ils seront tous faux, les petits carnets. Donc, il faut que les opérations soient validées. Comment est-ce qu'on fait pour valider les opérations? Eh bien, il y a une chose simple, c'est que certains joueurs vont jouer simplement et d'autres vont être des validateurs. C'est-à-dire qu'à tout moment, ils vont dire, Jacques, tu en donnes 5 à Selim, d'accord? Donc Jacques en a 5 de moins. Selim en avait 20, il en a 25. Donc si tout à l'heure Selim dit qu'il en paye 30, on lui dira, non, cher monsieur, vous ne pouvez pas en payer 30, vous n'en avez que 25. Et tous les validateurs le lui diront. Alors, vous allez me dire, OK, c'est tout. Ah, c'est tout conceptuellement, oui, mais et si moi je suis un validateur malhonnête? Et si tous mes copains disent, non, non, Selim, il n'en a plus? Alors évidemment, vous vous mettez à hurler comme un putois en disant, vous plaisantez, vous dites non, non, non. Donc, on doit voter en permanence. Et comment est-ce qu'on peut empêcher des gens d'être trop malhonnêtes et surtout des gens de voter n'importe comment? L'idée de base, c'est que pour voter, pour valider les opérations, il faut faire quelque chose. Le fameux travail de la preuve, c'est quoi? On vous dit que les gens qui valident les opérations font des calculs très compliqués pour... Ils ne font pas des calculs très compliqués. Ils jettent des pièces de monnaie en l'air. Alors, il faudrait rentrer dans ce que c'est que la cryptographie et le hachage, etc. Donc, ils doivent produire un hash. On viendra peut-être tout à l'heure au hash. Mais si on dit les choses plus simplement et mathématiquement, c'est la même chose. Pour valider une opération, aujourd'hui, il faudrait que je lance une pièce de monnaie en l'air assez souvent et assez fréquemment pour obtenir quelque chose comme 80 ou 90 piles de suite. Pour réussir cet exploit, il faudrait que je la lance en 10 minutes plusieurs milliards de milliards de milliards de milliards de fois. Et donc, ce n'est pas des calculs, c'est des opérations très simples, ce n'est pas des ordinateurs, c'est des circuits imprimés qui seraient incapables de faire 2 plus 2, parce qu'ils ne savent faire que ça, des opérations cryptographiques. Alors, ça sert à quoi? Vous avez des gens, vous allez me dire, oh, cette électricité pourrait être employée à autre chose. Sauf qu'on ne voit pas comment, en l'employant à autre chose, elle pourrait, dans un mécanisme standardisé, vous autoriser à voter. Moi, je dis souvent, j'espère que vous n'êtes pas corse et que je n'ai pas de corse dans mon auditoire, mais moi-même, j'ai une goutte de sang corse, donc je peux le dire. Imaginez un pays où on vote 2 fois et où même le grand-père qui est mort il y a 10 ans vote. Comment est-ce que je peux ramener l'ordre? Ben, je vais dire, je vais ramener l'ordre dans les isoloirs de façon très simple. Le vote va durer 10 minutes. Et pour pouvoir voter, vous allez faire des pompes devant le bureau de vote pendant 9 minutes et demie. Vous ne pouvez pas faire des pompes dans 2 bureaux de vote à la fois. Vous ne pouvez pas faire des pompes 20 minutes parce que vous serez fatigué. Vous aurez fait un travail et vous aurez fourni la preuve de ce travail et vous n'aurez pas voté pour rien. Parce que ce travail, il est coûteux. À vous, il va coûter en muscles, mais il est coûteux en énergie électrique. Et donc, pourquoi vous le faites? Alors, je pars de mon carnet que chacun valide, je rajoute l'étape du vote, je rajoute le fait qu'on vote pas n'importe comment, qu'on crame de l'énergie, comme quelqu'un qui ferait des pompes avant de rentrer dans l'isoloir dimanche prochain. Vous allez me dire, mais c'est bien gentil, mais pourquoi est-ce que je me donne tout ce mal? Dans l'espoir de la récompense, parce que vous êtes un être intéressé et cupide. Et qu'est-ce qui va se passer? Parmi tous ceux qui auront fait des pompes, l'un d'entre eux aura la récompense. Pas tout le monde. Donc il y a une espèce d'équilibre en théorie des jeux qui fait que vous n'avez pas forcément envie de voter, par exemple, tous mes complices pour dire non, Céline a perdu. Si on doit tous faire des pompes pour qu'il n'y en ait qu'un seul qui touche à récompense, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Quand on dit que Bitcoin dépense beaucoup d'énergie, oui, il dépense beaucoup d'énergie pour garantir l'authenticité des transactions et non seulement, et je vais en venir à blockchain, non seulement de la dernière transaction par laquelle Selim a gagné 20 haricots qu'il voudrait bien que le vote reconnaisse qu'il les a gagnés, qu'il n'y ait pas des loupards autour de lui qui disent qu'il ne les a pas gagnés, mais ces transactions, comment est-ce qu'elles vont être validées? Elles vont être validées par un procédé cryptographique, c'est-à-dire qu'elles vont être transformées en une suite alphanumérique de nombres, transparentes, mais pseudonymes. On ne dira pas Selim a gagné, on dira telle adresse a empoché 20 de plus. Et dans la validation, on intégrera la preuve de la validation des opérations de la partie précédente. Ça veut dire que l'énergie dépensée n'est pas dépensée uniquement pour valider l'opération par laquelle vous venez de gagner 25 ou 20, mais tout le book, de telle façon qu'on ne puisse pas, si on veut truquer une opération, il va falloir continuer de la truquer, parce que tous les autres validateurs verront bien qu'il y a une chaîne qui est défectueuse et iront sur la chaîne la plus longue.
Et en plus, juste avant d'expliquer les concepts de blockchain, ce registre comptable, je vais l'appeler comme ça, il est transparent, c'est-à-dire qu'en théorie, il peut y avoir accès pour vérifier aussi.
Bien sûr, même si vous n'êtes pas validateur, il est relativement transparent, pseudonyme, c'est-à-dire que vous ne verrez pas que Jacques a perdu 20 auprès de Selim, vous verrez que l'adresse 19QDR, etc., a envoyé 20 à l'adresse XPZ, etc. Néanmoins, quand on a fini de dire, voilà, c'est un registre, tout le monde le valide, certains votent, on ne vote pas gratis, c'est coûteux, c'est fatigant, on crame de l'énergie, et pourquoi? Pour une récompense. Et le coup de génie de Satoshi, que les autres n'avaient pas eu avant, parce que les autres, ils avaient inventé tout un tas de micmacs décentralisés, qui se terminaient en dollars. Et à la fin de la journée, il fallait bien que quelqu'un prenne tous les haricots, aille à la banque, les change contre dollars, etc. Et Satoshi a eu un coup de génie, il a dit, mais pas du tout, on paye en haricots. On fait nos échanges en haricots, et vous êtes payé en haricots. Et finalement, le haricot aura la valeur du coût de minage. C'est pourquoi on vous dit, à juste titre, que ça pourrait bien valoir de plus en plus cher, puisqu'il y a une sorte de lutte, de guerre aux armements, si vous voulez, entre mineurs, puisque, en gros, plus j'ai une machine qui peut calculer dardard des piles ou faces, plus j'ai de chances d'être parmi les premiers, etc. Donc, en fait, il y a une création monétaire qui vient du fait que on est rémunéré pour entretenir le système dans la monnaie avec laquelle on fait les transactions. Et plus cette monnaie, plus l'entretien de ce protocole consomme de l'énergie, plus cette énergie se transforme en valeur financière sous forme de valeur du Bitcoin.
Sachant que ce qui est intéressant, si je ne me trompe pas, la première valorisation du Bitcoin s'est faite sur le cours de l'électricité aux États-Unis.
Oui. Alors, où est-ce que vous pouvez me dire, mais dans toute cette description extrêmement simplifiée, je m'en excuse, si jamais il y a des gens compétents, ils peuvent à juste titre penser que je fais des simplifications vraiment à la charrue, à quel moment apparaît le Bitcoin ? Eh bien, en fait, c'est pour ça que je déteste cette présentation avec une pièce ronde, etc. Il n'existe pas. C'est une information. On dit, Jacques a envoyé 5 à Selim. Cette information, les 5 que j'ai envoyées, on peut la retrouver. Et je ne peux pas la copier. Parce que les validateurs, sauf peut-être 2 ou 3 foireux ou malhonnêtes, mais de toute façon, ça ne servira à rien parce que le système fait qu'ils sont contraints à la vertu, ça fait de cette information, Bitcoin en lui-même n'existe pas, ça fait de cette information une information qui ne peut pas être dupliquée. Le mot Jacques en a envoyé 5 à Selim, ne peut pas être copié. C'est-à-dire que tout le monde voit que je ne les ai plus et que je ne peux pas les dépenser deux fois. Si je vous envoie ma photo ou un enregistrement de l'hymne à la joie, un MP3, un JPEG, etc., et vous pouvez l'envoyer à tout votre carnet d'adresses. Et en fait, vous n'en envoyez pas des copies. Ça n'est jamais qu'une copie. Bitcoin est l'information. Alors, d'abord, vous n'envoyez pas une photo. Vous envoyez de l'information et c'est votre ordinateur qui en refait une photo. Mais en fait, vous envoyez des 1 et des 0. Pareil, vous n'envoyez pas l'hymne à la joie, vous envoyez des 1 et des 0. Et c'est votre système qui va en refaire l'hymne à la joie de Ludwig van Beethoven. Donc moi, je vous envoie des 1 et des 0 qui veulent dire Jacques envoie 5 à Selim. Et le système va en refaire une information qui est Selim à 5. Mais cette information-là, elle ne peut pas être copiée.
Mais du coup, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire, à l'instar de films ou de produits culturels numérisés, ça reste des objets, là où le Bitcoin n'est pas un objet.
Alors, tout au contraire. Tout au contraire. Si, qu'est-ce qu'un objet ? C'est le jour du bac de philo, hein ?
C'est ça, voilà, ça permet de réviser.
Alors, c'est ce qu'on explique dans la Céphale. Un objet, quelque part... Aristote, puisqu'on nous casse toujours les pieds avec Aristote pour la monnaie, Aristote le définit aussi. On va dire qu'un objet, là j'ai par exemple un kilo de cuivre, un lingot de cuivre, ça vaut à peu près 7 euros. Ce kilo de cuivre occupe une portion du temps et de l'espace. Il occupe quelques centimètres cubes sur mon bureau depuis tant d'années, etc. Il est sujet aux lois de cet espace, la gravitation, etc. Bon, dans l'espace qu'est la blockchain, si je dis Jacques envoie 5 à Selim, l'information, les 5 en question, sont dans l'espace de la blockchain. Il faut concevoir la blockchain comme un espace numérique. Dans cet espace de la blockchain, cette information, elle occupe une place où il ne peut pas y en avoir une autre. Et par contre, avec un objet, ça peut être mon téléphone, je peux, enfin Selim peut, puisque c'est Selim qui les a gagnés, Selim peut prendre ces 5 et les envoyer à Paul, avec son téléphone ou avec une application, parce que dans l'espace de la blockchain, ces objets sont numériquement tangibles. Qu'est-ce que c'est quelque chose de tangible ? Ben, votre oreille est tangible, parce que Napoléon aurait pu la prendre et la secouer en disant « je suis content de vous ». Votre téléphone rend tangible le Bitcoin. Vous pouvez le prendre et me l'envoyer. Quand vous l'aurez fait, il ne sera plus à vous, il sera chez moi. Tout le monde saura qu'il n'est plus à vous, qu'il est chez moi, que vous ne pouvez plus vous en servir. Etc. Donc, en fait, c'est un objet numérique, et d'ailleurs, même l'État a fini par reconnaître, à dire c'est un bien meuble immatériel.
Mais donc pas copiable, par contre.
Non copiable. Mais oui, mais la plupart des objets sont non copiables. Si vous prenez mon chien ou mes lunettes, a priori, vous ne pouvez pas les copier. Vous pouvez
fabriquer pour ça, des objets numériques, en effet, mais oui, c'est vrai que...
C'est un objet numérique. Oui, parce que les autres objets numériques sont des ectoplasmes. Vous allez prendre un fichier YouTube. Alors, YouTube, il se protège, mais ça, c'est pas... Voilà. Vous allez prendre un fichier JPEG où je vous ai envoyé ma photo, vous allez le copier, vous allez le donner à la terre entière. Ça n'a aucune valeur, c'est normal, puisque on peut en fabriquer des milliards, le coût marginal est nul. Donc voilà, l'un des coups de génie, c'est ce registre distribué, entretenu de façon décentralisée par une communauté, avec un travail de preuve qui fait que ça ne peut pas être une plaisanterie, rémunéré dans une monnaie. Sui generis.
Et alors, je voulais revenir juste pour avoir un exemple concret, même si vous nous en avez donné plusieurs, sur le processus de circulation par rapport à une personne A et B, juste aller un peu plus dans le détail de ça. Je voulais parler de la différence entre les clés publiques et les clés privées que l'on a forcément lorsque l'on a un portefeuille Bitcoin. Comment concrètement peut se passer une transaction ? Est-ce que ça se passe toujours de la même manière ? Est-ce qu'il y a des procédés différents ?
Justement, il y a des procédures différentes et l'adoption de masse requiert que les choses soient de plus en plus simples et en fait que vous compreniez de moins en moins. Vous savez qu'il n'y a que les grands-parents qui pensent que leurs petits-enfants sont des génies de l'informatique. Je dis à mes amis, tu plaisantes, ton petit-fils, il fait de la magie de sauvage. Entre dire copier-coller ou suivre le sorcier qui dit qu'en levant le bâton, ça fait pleuvoir la pluie, vous n'avez pas plus de connaissances de l'informatique que le sauvage en a de la météo. On est dans un univers faussement, enfin, on vit, grâce à Bill Gates et quelques autres qui empochent l'argent au passage, dans un univers magique, copié-collé. Bon. Vous n'êtes pas d'âge à avoir expédié les premiers emails. Les premiers emails, il fallait savoir coder. Bon, maintenant, vous écrivez « Bonjour mamie », vous cliquez, c'est parti, voilà. Donc, l'expérience utilisateur, elle peut être très différente. Ce qui est magnifique, c'est qu'elle est interopérable. C'est-à-dire que dès que vous êtes avec des copains en train de travailler, il y en a un qui dira « mince, je n'ouvre pas ton fichier ». Ben oui, pourquoi ? Parce que c'était sous Mac. Ah ben mince, t'es sous Mac, t'as pas la bonne version. C'est-à-dire, tout ce truc-là, la clé USB a jamais le bon port, etc. Je sais pas, je suis pas chez le même opérateur, etc. Bitcoin est un protocole. C'est un protocole d'échange. Et ce protocole est universel. Je n'ai pas à vous demander si vous avez un Mac ou si vous êtes sur votre téléphone, etc. Vous revenez à clé publique, clé privée. En fait, il faudrait parler d'adresse. Imaginez la blockchain comme une immense salle des coffres avec 21 millions, même un peu plus, puisqu'il est divisible. Chaque Bitcoin est divisible en 100 millions, donc ça ferait 21 000 milliards de coffres, dont les portes sont transparentes. Et je vous rassure, c'est blindé. Donc, je vous dis, il y a telle adresse, j'ai un bitcoin et demi. Alors, vous allez voir à telle adresse, je vous dis, oui, il y a un bitcoin et demi. Pour le moment, vous ne savez pas que c'est à moi, parce que n'importe qui peut dire à telle adresse, il y a un bitcoin et demi. La salle des coffres, elle est ouverte, la blockchain est ouverte, à telle adresse, il y a un bitcoin et demi. Bon. Comment est-ce que je peux prouver que c'est à moi ? D'une seule façon, c'est en signant une signature, en vous en envoyant un pouillème. Donc, c'est une salle des coffres dans laquelle il y a une totale lisibilité des actifs détenus. Mais pour ouvrir une porte, il faut la clé. Et en fait, c'est même pire que ça, parce que si j'ai, oublions la divisibilité, il y a un bitcoin et je veux vous envoyer un bitcoin. C'est beaucoup plus compliqué parce qu'il est divisible. Mais en fait, je ne vous transfère pas le bitcoin, je vous informe de la clé. Ce pourquoi, alors que si je veux vous payer et que vous êtes à Palaiso et moi à Pantin, il faut 2 jours en passant par les banques. Si vous êtes à Bruxelles, n'en parlons plus, si vous êtes au Japon, il faudra 8 jours. Je peux vous envoyer du Bitcoin si vous êtes dans une cabine spatiale et moi sur un bateau en quelques secondes. Ça mettra quelques minutes à être validé, mais au quelques secondes, vous saurez. Pourquoi ? Parce que je ne vais pas ouvrir ce coffre. Je vous envoie simplement la clé. L'adresse, c'est une série alphanumérique. Et la capacité de bouger, d'ouvrir, c'est une clé qui est une autre série alphanumérique, plus longue. Il y a entre les deux une fonction mathématique irréversible. C'est quoi une fonction mathématique irréversible ? La plus simple que vous ayez, c'est celle sur votre montre si elle a un cadran, pas si elle est digitale. Elle est à 2 heures, vous me la passez, je vous la rends, elle est à 4 heures. Est-ce que je l'ai avancée de 2 heures, retardée de 10 heures, retardée de 34 heures, etc. Il y a une infinité de solutions mathématiques entre le fait que vous me l'ayez donnée à 4 heures et que je vous la rende à 2 heures. Vous ne saurez jamais ce que j'ai fait. Il y a une infinité de solutions. Il y a d'autres fonctions mathématiques irréversibles, quand on veut faire un cours, le mélange des peintures, etc. En gros, la plus simple, c'est quand même la montre, c'est-à-dire les additions et soustractions modulo n. Là, vous avez une fonction mathématique qui est connue, c'est celle de la factorisation des nombres premiers, qui fait que si je vous dis 35, vous allez me dire c'est 5 fois 7, mais vous allez me le dire parce que vous l'avez appris tout petit à l'école. Sinon, il faudrait compter sur vos doigts, finalement, ce ne serait pas si facile que ça.
Ouais.
Si je vous dis un énorme nombre de... je ne me suis pas trompé, au moins 5 fois 7, 35. Si je vous dis un énorme nombre, vous ne pourrez pas le décomposer autrement que par une itération en brute force mathématique. Et c'est ça qui protège votre carte bleue. Ce qui protège Bitcoin, c'est une autre cryptographie, c'est la cryptographie dite des courbes elliptiques. Ça n'a aucun intérêt à ce niveau-là de rentrer dans les détails. C'est un calcul dont vous pouvez vérifier le résultat, mais dont vous ne pouvez pas refaire. Donc, avec la série d'informations, la série alphanumérique de 64 caractères de ma clé privée, je peux ouvrir l'adresse dans laquelle il y a un solde en Bitcoin, un petit solde en Bitcoin. Et si je vous donne ma clé à Dieu Bert, c'est comme si je vous allais donner les Bitcoins, puisque vous êtes naturellement malhonnête, vous en servirez dans la seconde. Si je vous donne mon adresse, il ne se passera rien. Vous pourrez juste savoir que c'est comme si je vous donne ma boîte aux lettres. Dans ma boîte aux lettres, vous pouvez glisser un billet de 10 euros, mais une fois qu'il y est, il faut la clé pour l'ouvrir. Ouais.
Mais alors, du coup, ce que je n'ai pas saisi pour ma part, c'est que donc, ces clés-là, voilà, on a fait le parallèle avec les adresses, etc. Mais la transaction se fait quand, du coup, le transfert, entre guillemets, d'un bitcoin d'une adresse à une autre? Vous aviez parlé tout à l'heure d'une règle de 10 minutes.
Qu'est-ce qui va se passer? La transaction que je vais initier, simplement parce qu'on est ensemble au bistrot, vous avez payé en euros parce que vous voulez que je vous file des bitcoins parce que vous n'en avez pas encore, je vous ai installé en quelques instants un wallet sur votre téléphone, si on n'a pas trop de main gauche, on y arrive assez
rapidement.
Voilà, un portefeuille. Donc, je vais créer un portefeuille, je vais vous demander de le regarder seul pendant que vous rentrerez les mots secrets, les machins, etc. Vous avez un portefeuille. Mine de rien, si vous voulez un compte en banque, il faut aller supplier, etc. Si on veut l'ouvrir à deux, on va nous dire, mais vous êtes quoi? Vous êtes marié? Vous êtes paxé? Non, bon. Vous ouvrez un wallet, un portefeuille, à votre nom, ou à nom de nom, ou à 50 noms avec une règle de, etc., qu'importe, en quelques minutes. Et puis, soit je vais dire j'envoie un, soit vous allez dire je demande un, on va flasher les QR codes, l'opération va être initiée et elle va être diffusée au bout de quelques secondes dans tous les nœuds. Que tous les nœuds vont recevoir le fait qu'il y a une adresse qui veut envoyer tant à une autre adresse. Les gens qui veulent valider agglomèrent ces transactions. C'est ce pourquoi, si vous voulez, dès que je vais avoir fait cette opération avec vous, je vais recevoir un avis disant « ça y est, c'est diffusé, l'opération est diffusée, ça veut pas dire que c'est fait ». Autrement dit, si je vous vends des beignets sur le bord de la plage, je peux me contenter de ça. Si je vous vends des rivières de diamants, place Vendôme, je vais vous offrir le café pendant suffisamment de minutes pour avoir les confirmations. Ça, c'était... Enfin, n'ayez pas peur, si vous payez avec votre carte bleue place Vendôme, on va aussi vous offrir le café le temps d'avoir la confirmation. Dès que je vais avoir initié l'opération avec nos deux téléphones ou avec nos deux ordinateurs, ou qu'importe le device, elle va être diffusée. Et dans les 10-12 minutes, on va avoir des confirmations. On estime que pour qu'un truc soit béton, il faut qu'elle soit confirmée pendant 6 blocs, c'est-à-dire en fait une heure, puisqu'il y a un bloc toutes les 10 minutes. Dès que c'est confirmé dans un premier bloc, ça devient quand même très sécurisé. Et de nouveau, si c'est pour payer le café, c'est une sécurité sans égale. Qu'est-ce qui va se passer? Pendant 10 minutes, les gens... pas vous et moi, ceux qui ont une ferme de minage, qui ont, etc., vont agglomérer les transactions, les hacher, enfin les ordonner en arbre de Merkel, c'est-à-dire les organiser d'une certaine façon qui permette de les retrouver ensuite de façon efficiente, transformer tout ça en traces cryptographiques et vérifier que toutes les transactions sont bonnes. Ça, c'est simple, il suffit d'aller à la blockchain, voir que je l'ai, qu'il y a un portefeuille ouvert, vérifier les minutes de transactions, l'affaire de quelques secondes, les agglomérer, les mettre en arbre, et ensuite ajouter quelque chose à ce bloc, de telle façon qu'on sorte un certain nombre très élevé de zéros en tête du résultat de la transformation de toute cette donnée en traces cryptographiques, avec la fonction dite SHA-256. Et ce qui va prendre du temps, ce n'est pas de faire le travail, comme je vous disais tout à l'heure, c'est de faire les pompes, c'est-à-dire d'essayer des milliards de combinaisons d'une ligne à rajouter à toutes les transactions pour valider toutes les transactions qui sont dans le bloc de 10 minutes. Voilà. Donc, au bout de 10 minutes, nos deux téléphones vont recevoir la mention « une confirmation ». Et puis, au bout de quand c'est le cinquième ou sixième bloc, comme chaque bloc est lié au bloc précédent, bah, quand la transaction, la vôtre, elle est dans le bloc 420 253, qu'on en est au 424 000, bon, bah, ça y est, elle est cristallisée dans le